Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fréquence Mistral et c'est l'heure de Force 7, un magazine d'information préparé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Violaine Desmarais, préfète des Alpes de Haute-Provence, a visité le campus de Digne-les-Bains. Odile Frison l'a suivi et interviewé. Samedi 5 juin, Nice accueillera toutes aux frontières une manifestation de femmes visant à attirer l'attention du public sur les parcours des migrantes. L'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement a édité un guide à l'usage des collectivités pour obtenir zéro déchet plastique. Explication et l'interview de la présidente de l'ARB dans un instant. Des œuvres d'art contemporain dans des entreprises saveurs et senteurs du 04, une initiative originale que l'on doit notamment au FRAC et à l'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence. Notre reportage à la fin de ce magazine. L'apprentissage est conçu comme la voie de la réussite.
C'est ce que souligne la préfète des Alpes de Haute-Provence, Violaine Desmarais, au micro d'Odile Frison, après une visite du campus de Digne-les-Bains. Opportunité pour les jeunes, bien sûr, mais également pour les adultes en reconversion ou formation. L'établissement est dirigé par Nathalie Davin-Barreau. Cette dernière a assuré la visite en compagnie de la présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat, Laure Vial. La préfète Desmarais précise au micro d'Odile Frison l'intérêt de l'apprentissage que le plan de relance soutient.
Violaine Desmarais, vous avez visité aujourd'hui le campus de Digne-les-Bains. Comment s'est passée la visite ?
Déjà, je suis très heureuse d'avoir pu faire cette visite puisqu'on l'avait prévue depuis 7 mois avec la présidente et compte tenu des événements, ça n'avait pas été possible. Donc c'est d'abord une grande satisfaction et ça s'est extrêmement bien passé. C'était vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a pu visiter des ateliers, on a pu échanger évidemment avec la présidente et la directrice du CFA, mais aussi avec des apprenants et des enseignants.
L'État aide bien sûr le campus ?
Oui, on aide le campus de façon générale, vous le savez. Et puis il y a une actualité un peu particulière, puisque dans le contexte que vous connaissez, on a le plan de relance. Dans le plan de relance, qui s'élève à 100 milliards d'euros, le gouvernement en réserve 13 milliards d'euros pour ce qu'on appelle le plan Un jeune, une solution, et qui vise notamment à développer l'apprentissage et à aider ce type de structure aussi. Et les entreprises, surtout, qui embauchent, puisque vous savez que pour qu'on développe l'apprentissage, il faut qu'on ait évidemment des CFA, des enseignants, des installations qui permettent de faire des mises en situation réelles. Il faut qu'on ait des entreprises. Et donc c'est ça qu'on essaie de relier avec des passerelles et avec des dispositifs financiers, mais qui incitent les entreprises à recruter des apprenants.
Aujourd'hui, est-ce que le campus a souffert du confinement ? Comment ça s'est passé ?
Alors, il n'a pas souffert de façon générale, puisque sur ce campus, on a 750 apprenants, ce qui est évidemment énorme hein, pour les Alpes de Haute-Provence. Il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de tarissement. Et d'ailleurs, dans le département, au-delà de ce campus, on constate qu'en 2020, pourtant année très particulière, il y a eu 10% d'apprentissage en plus. Donc c'est quand même très très important. Donc ça a bien marché malgré cette année-là. Donc ça, c'est pour la partie, j'allais dire, statistique. Après, à l'intérieur, on en a parlé avec les jeunes et les enseignants. Bien sûr, des jeunes ont souffert. Ils ont été coupés des enseignements pendant des mois parce qu'il y a des enseignements ici qui se prêtent à du distanciel et d'autres qui ne se prêtent pas à du distanciel. On échangeait en particulier tout à l'heure avec des jeunes de l'atelier restauration. Ils sont revenus hier, après 5 mois pour certains, chez eux, seuls, sans enseignement pratique et avec des enseignements à distance. Et là, évidemment, on choisit pas ces filières si on veut pas pratiquer. Donc on avait du soulagement dans leur regard tout à l'heure, une grande joie de pouvoir revenir et commencer à pratiquer. Et donc finalement, on est dans la même bouffée d'oxygène qu'on constate partout en France depuis hier avec la réouverture des terrasses et des desserrements très attendus.
Est-ce qu'il y a des choses dans les installations qui vous ont surprise ?
Ce qui m'a surprise très positivement, c'est la qualité des investissements qui ont été faits ces dernières années et très récemment, et avec des projets pédagogiques qui se poursuivent. Dans l'atelier électricité par lequel on a commencé, on a cet enseignant qui, depuis 2 ans, a réussi, en poussant un projet pédagogique validé ici localement, puis au niveau régional, puisque vous savez que les chambres de métier sont désormais régionalisées depuis plus de 5 ans, a réussi à obtenir des financements pour faire ces mises en situation réelles autour de la domotique, autour de tout un tas d'ateliers d'électricité, de l'éolien, du photovoltaïque. Et donc ça, oui, ça m'a marqué parce qu'il y a une grande, grande dynamique. Et comme je l'indiquais en échange avec la présidente, ce qui est marquant ici, c'est que les enseignants ont besoin d'être toujours en pointe. Parce que si on veut placer les jeunes sur le marché du travail, il faut que ce qu'ils apprennent ici, ça corresponde aux meilleurs standards de ce qui se fait dans les entreprises. Et c'est exactement ce qui se passe, et ce qu'on a vu en électricité était très éloquent. Après, on pourrait parler de tous les autres investissements qui ont été faits dans la partie restauration, alimentation. Mais c'est ce qui me marque aussi ici, c'est qu'on a vraiment un CFA très dynamique qui investit dans les installations. Et globalement, c'est dans les jeunes qu'on investit avec eux.
Tout à l'heure, Madame Davin parlait d'apprenants plutôt que d'apprentis.
Oui, elle a raison, puisque finalement, les apprentis, c'est un statut juridique qui correspond à une forme d'apprentissage ou d'apprentissage au pluriel pour qu'on place des jeunes et des moins jeunes sur le marché du travail. Donc c'est en effet plus large que la notion d'apprenti. On a des apprenants, beaucoup de jeunes, on l'a dit, mais des moins jeunes aussi. Et là-dessus, je tiens à rappeler qu'on a des possibilités très fortes pour les gens aujourd'hui de rentrer dans l'apprentissage, pour le coup, y compris sans avoir un employeur, jusqu'à 6 mois. Ça, c'est une disposition très récente qu'a mise en place le gouvernement pour favoriser ça. Et puis de l'autre, les fameux 13 milliards d'euros dont je parlais tout à l'heure, les entreprises peuvent en bénéficier jusqu'à la fin de l'année. Donc il faut absolument qu'elles profitent de cette opportunité qui est offerte en 2021. Pour terminer, on peut dire que on sait que l'apprentissage, c'est la voie de la réussite, on le sait. On a des jeunes, on l'a vu, on en a échangé avec eux tout à l'heure, ils ont des talents. Ici, ils apprennent à fructifier ce talent, à en développer d'autres. Et derrière, c'est leur avenir qui est construit et c'est vraiment la voie de la réussite. C'est ce que je voudrais que chacun retienne.
Elle est toutes aux frontières.
Samedi 5 juin, dès 11h, Constance Vartas sera avec bien d'autres femmes à Nice pour attirer le regard et l'attention du public vers celles qui traversent les frontières pour échapper à des conditions de vie difficiles, la faim, la violence, voire la mort. Le choix de Nice s'est imposé de par la proximité avec l'Italie et parce qu'avec la Roya ou Montgenèvre, c'est une porte d'entrée et de passage vers notre région pour bien des migrants. Je devrais dire migrante, car l'accent est mis par l'organisation sur la fragilité, le mot est faible, de femmes qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient, souvent avec leurs enfants pour fuir la misère et l'horreur. Durant l'événement niçois, il y aura des comédiennes, des chanteuses ou encore des cyclistes venus dire l'aberration des clôtures frontalières pour leurs semblables en situation d'urgence. Membre du Forum civique européen, Constance sera présente à Nice samedi 5 juin. Elle exprime ses motivations. Constance, vous êtes une responsable du Forum civique européen et vous allez soutenir une manifestation qui se déroule à Nice. Quel est le sens de cette manifestation ?
La manifestation, c'est une manifestation de femmes et elle s'intitule « Toutes aux frontières ». Et donc, dans le titre, il y a déjà « Frontières ». Et c'est donc une manifestation contre les frontières. Contre les frontières vis-à-vis des gens, des personnes, des hommes, des femmes, des enfants qui traversent ces frontières pour venir chez nous, donc ce qu'on appelle les réfugiés. Et là, en particulier, c'est des femmes qui organisent ça pour les femmes, parce que parmi ces réfugiés, plus que la moitié sont des femmes. Et c'est trop rare qu'il y a la lumière mise sur le sort de ces femmes qui sont particulièrement vulnérables lors de leur trajet déjà vers ici et aussi après une fois arrivées dans un pays européen ou en Suisse, parce que la Suisse ça fait quand même un peu partie au moins géographiquement de l'Europe. Eh ben, ils sont traités en général comme humiliées en permanence. En fait, c'est-à-dire ces femmes sont encore plus que les hommes humiliées dès leur départ. Et en fait, souvent, elles partent de leur pays parce que dans leur vie déjà, elles sont particulièrement humiliées, soit par les lois, les cultures existantes dans leur pays qui font qu'elles, qu'il y a les mariages forcés, que par exemple elles doivent, une fois que leur mari, parce qu'il était très vieux et qu'ils étaient déjà obligés de se marier avec lui et lui faire des enfants et se faire violer toutes les nuits, et ben quand ils meurent, ils sont obligés de se marier avec son frère, parce que les mariages sont restés dans la famille. C'est des choses que nous, femmes libres de l'Europe, on a du mal à imaginer comment déjà elles survivent tout ça et comment elles arrivent à trouver la force d'entamer ce voyage, ce grand voyage vers un autre futur. Souvent, elles embarquent leurs enfants avec. Et lors du trajet, donc, leur arrive des choses vraiment graves. Elles fonctionnent déjà comme paiement, c'est-à-dire les passeurs les utilisent comme paiement aux frontières. Ça veut dire que c'est leur corps, en fait, qui sert comme paiement. Il y en a nombreuses qui sont mises enceintes lors de ce voyage-là par un viol, justement. Après, il y en a d'autres qui ne peuvent pas amener leurs enfants, qui doivent laisser leurs enfants de bas âge là-bas parce qu'elles doivent partir sans rien dans la nuit parce que c'est une fugue. Donc, l'autre drame, c'est que jusqu'à ce qu'elles puissent revoir leurs enfants qu'elles ont laissés malgré elles, ils peuvent passer des années, parfois des dizaines d'années, parfois elles ne les revoient jamais. Voilà, tous ces sorts-là que nous, on a du mal à imaginer quand on voit une personne ici, qu'elle nous dit, voilà, je viens de là et là, je viens du Sub-Sahara, je viens de quelque part, quoi. Et ben, on a peut-être pas en tête tout ce que ces femmes ont vécu. À partir du moment où, moi, j'ai compris que ces femmes ont besoin d'un grand, grand courage déjà pour commencer ce voyage, et ont un grand, grand espoir en elles que après, ça ira mieux pour elles et pour leur famille. En général, c'est l'énorme déception à l'arrivée, parce que si elles arrivent ici, ce qui n'est pas du tout évident, parce que la plupart n'arrivent pas jusqu'ici, et ben restent soit dans l'Afrique du Nord ou en tout cas restent coincées quelque part. Et si elles arrivent, elles sont traitées comme des chiffons. C'est des femmes qui sont souvent très avec des formations, etc. Bon, en tout cas, moi, ça me motive énormément pour m'engager pour ces femmes et avec elles.
Alors, cette manifestation a lieu le 5 juin au départ de la place Masséna à Nice. Pourquoi ce choix de Nice et comment faire pour avoir des informations complémentaires?
Le choix de Nice, c'est parce que au départ, l'idée c'était de faire cette manifestation à la frontière même entre Nice et Vintimille. Après, on s'est rendu compte que ça va être trop difficile parce qu'on va pas nous laisser faire. Et déjà, les frontières sont hyper protégées, hyper militarisées, et en plus avec le corona, c'est encore plus difficile. Donc, on a décidé de faire dans la ville même. Logistiquement, c'est éventuellement aussi un peu plus facile de trouver le lieu, etc. Il y a plein d'informations. On peut déjà aller sur le site Toutes aux frontières. On tape Toutes aux frontières et on tombe dessus. J'ai pas encore tout dit juste sur l'action en elle-même. C'est une action internationale. L'idée est partie dans une rencontre en 2019 à Genève, une grande rencontre de femmes, à peu près 300 femmes, qui font partie de la Marche des Femmes. Et il y avait Pinar Selek, qui est une exilée sociologue turque, exilée à Nice, poétesse, elle est prof d'université, elle est depuis son très jeune âge antimilitariste, féministe, a passé 2 ans en prison, etc. Et elle, donc, elle a eu cette idée-là de faire cette manifestation, cette marche. Ce qui est important aussi, c'est que c'est organisé que par des femmes. Et c'était la volonté des femmes d'organiser cette manifestation que entre elles, c'est des femmes, des lesbiennes, des queers, des transgenres. Mais c'est aussi pour démontrer que nous, on a envie d'être fortes ensemble et d'être en solidarité avec ces autres femmes qui vont nous rejoindre tôt ou tard.
Constance, deux questions. La première, est-ce que c'est une manifestation qui est ouverte aux hommes? Et la deuxième, est-ce que vous avez prévu des animations?
Oui, bien sûr, elle est ouverte aussi aux hommes, avec plaisir. Et il y a des animations, c'est-à-dire, entre autres, ce qui est important, c'est des chorales de femmes qui vont venir de plein de différents pays. Et ça se prépare depuis un moment. Moi, j'en fais partie. On va chanter une dizaine de chansons toutes ensemble. Et ça va plusieurs centaines de femmes, donc. Et là, en l'occurrence, il y a des hommes aussi qui soutiennent en imprimant les chants, etc. Donc, ça, c'est une bonne coopération. Après, il y aura, après la marche, donc, et les chants et les cerfs-volants qui vont voler dans le ciel, il y aura des lectures, des projections de films documentaires, des concerts, la musique, etc., jusqu'au soir.
Un guide zéro déchet plastique, on peut tous y arriver.
Réduire les déchets plastiques est un objectif partagé par beaucoup de citoyens. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région et les départements ont créé l'ARBE, Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. En éditant le guide « Engager son territoire dans une démarche zéro déchet plastique », l'ARBE propose des solutions et pistes de réflexion et d'action aux collectivités, associations et à chacun d'entre nous. Une des vocations principales de l'agence est d'outiller et aider les collectivités et intercommunalités à s'engager dans des chartes. Laura Giraud a interviewé Anne Claudius Petit, qui préside l'ARBE.
Anne Claudius Petit, vous êtes présidente de l'ARBE. Présentez-nous l'ARBE.
L'ARBE, c'est l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. En fait, c'est une agence, un syndicat mixte précisément, qui existe depuis un peu plus de 40 ans. Un syndicat mixte qui a été créé par la région, par les départements et dans lequel aujourd'hui on a également le Grand Avignon. Mais on travaille aussi avec des opérateurs, des acteurs très importants qui sont notamment l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau, l'ADREAL et l'ADEME. Donc on travaille sur les questions d'environnement d'une manière générale, de transition écologique des entreprises dans des zones d'activité par exemple, et beaucoup sur la biodiversité, sur les milieux aquatiques.
Et justement, donc vous avez mis en place un guide zéro déchet.
Oui, tout à fait, un guide zéro déchet plastique. Alors en fait, c'est un guide que l'agence a conçu dans le cadre d'une mission que lui a confiée la région. En fait, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est engagée en 2016 dans un programme zéro déchet plastique à l'horizon 2030. Donc 2016, vous voyez, ça commence à dater. On a eu le temps de développer ce programme au travers d'un plan d'action. En fait, on partait d'un constat que les déchets plastiques, c'est un volume qui augmente chaque année de manière très importante. On les retrouve dans la nature, ils prennent énormément de place dans les décharges. Enfin voilà, c'est à un moment, il faut trouver des solutions pour pallier ce problème. Dans ce programme d'action, nous avons créé à la région ce qu'on appelait une charte d'engagement zéro déchet plastique, parce que la région elle-même s'est engagée pour réduire ses déchets et dans l'ensemble de ses activités. On a envie d'emmener avec nous les acteurs, que ce soit les entreprises, associations et bien sûr les collectivités, donc les communes et groupements de communes. Donc cette charte d'engagement zéro déchet plastique pour l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Comme nous, on est très opérationnel, ce qu'on a conçu, c'est un guide pour les collectivités, pour leur présenter en fait des expériences d'autres collectivités qu'elles ont déjà menées, et puis leur fournir des ressources, permettre à elles de s'engager, pas forcément dans un plan d'action très élaboré, mais au moins de commencer par une action, puis une autre, et puis finalement se dire que c'est pas si compliqué, qu'on peut obtenir des résultats rapidement.
Et justement, où peut-on retrouver ce guide ?
Téléchargeable sur le site de l'agence, c'est arbe-regionsud.org, puis également trouver le contact à l'agence pour les personnes représentantes qui voudraient profiter de l'accompagnement de l'agence pour cette démarche.
Quelles actions ont été déjà menées ?
Par exemple, il y a une fiche action qu'on propose, c'est de réduire l'usage des déchets plastiques dans les manifestations sportives et culturelles. Parce que, effectivement, dans des événements ponctuels, on a très facile recours à des plastiques à usage unique, parce que c'est plus facile, plus léger, plus, en plus, on pense que c'est plus simple et finalement moins onéreux. Et finalement, on peut trouver des solutions. Alors, pense par exemple aux éco-cups. Donc, il y a des communes ou des groupements de communes qui ont pu constituer un stock d'éco-cups qui mettent à disposition des associations ou des acteurs qui viennent organiser un événement, que ce soit sportif ou culturel, sur leur commune. Et donc, très concrètement, on réduit l'usage des gobelets à usage unique.
Des œuvres d'art contemporains investissent des entreprises.
Le mouvement peut sembler timide, mais il a le mérite d'exister. Grâce à un partenariat solide, des entreprises de la route des saveurs et des senteurs des Alpes de Haute-Provence accueillent des œuvres prêtées par le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain. Jusqu'au 31 octobre, c'est un parcours d'œuvres que vous invitent les organisateurs à l'intérieur des entreprises impliquées. Elles sont réputées pour la qualité de leurs produits qui donnent l'eau à la bouche et procurent beauté et bien-être. Ainsi, à Pior, Celle d'Azur, Les Contes de Provence, Cueilleurs de Douceur, François Doucet Confiseur, Perle Amande et Terre d'Oc, sans oublier Artemisia, à l'Université Européenne des Saveurs et des Senteurs de Fort-Calquier, où a été présentée l'opération. Quant aux artistes, en photo, peinture, collage et jusqu'à une étrange sculpture où une aloe vera sonde les âmes et écrit des haïkus, eh oui, des créations qui suscitent notre imaginaire avec poésie dans un cadre d'entreprise qui a priori leur est étranger. Une réussite qu'on espère voir se développer. Écoutons les partenaires de l'opération, Denis Vaugade, qui préside depuis peu l'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence, également le président du conseil départemental, René Massette, et bien sûr la directrice du FRAC, Muriel Angelran. Mais d'abord, Domi Vaugade, présidente de la Route des Saveurs et des Senteurs, une structure qui fête aujourd'hui ses 10 années d'existence. Domi Vaugade, vous êtes la présidente de la Route des Senteurs et Saveurs, et vous accueillez dans vos entreprises des œuvres d'art. Quelle drôle d'idée!
Oui, c'est une drôle d'idée, mais c'est grâce au travail en commun avec le département et l'agence de développement du département, 04, et le FRAC, institut à Marseille, qui est là pour nous prêter et pour montrer les œuvres à un public large et pas forcément sélectionné, puisque dans une boutique, n'importe qui peut rentrer. L'entrée est gratuite et du coup, on peut regarder une œuvre gratuitement et la contempler tout simplement.
Les chefs d'entreprise ont adhéré tout de suite au principe?
Alors nous sommes 14, bientôt 15 autour de la route Savoir Center. Seulement 8 ont adhéré, mais c'est déjà pas mal. J'espère qu'à la vue de tout cela, les autres adhéreront un peu plus tard.
À vos côtés, votre frère Denis Vaugade, qui est aussi le président de l'agence de développement. L'agence de développement qui a été à l'initiative aussi de ce projet.
C'est une histoire de famille, vous l'avez bien compris. L'AD, donc, on le dit, on le répète, c'est un partenariat public-privé entre les entrepreneurs et le conseil départemental, et puis plus largement la région, les EPCI, enfin bref, il y a beaucoup de monde autour de la table. Nous, on a jugé que cette initiative était de première nécessité, si on peut le dire comme ça, puisque c'est offrir la culture à tous et faire découvrir l'art contemporain au plus grand nombre, à travers nos boutiques d'usine, qui sont un lieu largement visité, et surtout dans les mois à venir avec la réouverture, hein, puisqu'on était quand même aussi dans la symbolique en ce 18 mai, en se disant demain, ça y est, c'est reparti, beaucoup de choses vont remarcher. Donc, faire découvrir de belles œuvres au plus grand nombre, ça fait aussi partie de l'attractivité du territoire, donc de la mission de l'AD.
La mission de l'AD, c'est aussi la culture et c'est aussi l'art contemporain.
Alors, je dirais que c'est pas sa mission première, hein, mais globalement, comment imaginer l'attractivité du territoire au niveau économique, au niveau touristique, sans y englober la culture? Ça me semble pas possible, simplement pas possible. Donc, bien évidemment, tout ce qui tourne autour de la culture intéresse et mobilise les équipes de l'AD et Julien Martellini, entre autres.
Un partenaire de cette opération et également un fondateur de l'AD, c'est le département des Alpes de Haute-Provence. René Massette, vous présidez le CD04. Votre regard sur cette exposition particulière?
Alors, j'ai posé une question de béotien, mais je crois que ce qui est intéressant avec l'art, toute forme d'art, c'est l'émotion que l'on ressent. Mais je crois qu'il faut que ça rentre dans les mœurs aussi, hein. Puisque ce qu'on fait ici a été fait ailleurs. On parlait de Château Lacoste, les Hospices de Beaune, de Châteauneuf-du-Pape, etc. et tout. Et puis ici, localement, Denis me le disait, l'ancien président du MEDEF a planté des vignes et veut faire un peu cette histoire-là à Châteauneuf. Châteauneuf à Saint-Donat, juste à côté de chez nous, hein. De chez vous d'ailleurs, hein. Puisque votre mère est de là-bas. Donc voilà, donc je crois, histoire de famille encore, hein. Histoire de famille. Et puis le département a des compétences obligatoires, il a des compétences volontaristes. Et la culture fait partie de ces compétences volontaristes. Et comme le disait très bien Denis, je crois qu'on ne peut pas imaginer ce département sans cet aspect culturel. Culturel sous toutes ses formes, hein, je le dis, le patrimoine, etc. et tout. Et puis, pourquoi pas, l'art contemporain. Et il y a aussi des artistes qui sont venus dans ce département, qui ont créé des cairns, la route des cairns, etc. et tout, du côté de Digne en particulier. Et je crois que ça, maintenant, c'est rentré dans les mœurs et les gens s'arrêtent pour photographier. Hein. Ça, c'est déjà bien. Et à partir du moment où on commencera à photographier les œuvres, c'est qu'on a gagné. Et je crois qu'aussi, le but de faire venir des gens, et puis, c'est une attractivité nouvelle, hein. Sauf qu'il faut le faire connaître. Il y a la communication là-dessus et tout à faire. Mais je crois que le partenariat qu'on a mis en place est quelque chose qui peut, qui doit perdurer pour que ce département, eh ben, qui est le plus beau du monde, le plus irrésistible, hein, pour faire plaisir à Denis, je crois que ce département mérite le détour et mérite aussi, quand on voit la salle en bas, personne ne sait qu'il y a cette salle à l'université des saveurs et des senteurs. Je crois que c'est un amphithéâtre. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu des comme ça, parce que moi, j'ai fait lettres modernes, mais c'était pas du tout comme ça. C'était du formica. C'était pas tout à fait la même chose. Et ça fait plaisir de voir que, ici, dans le couvent des Cordeliers, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Et puis, il se passe des choses. Et puis, quand vous voyez les gens du FRAC qui parlent avec leur cœur, qui arrivent à nous faire dévoiler un certain nombre de choses qu'on voit pas, ben, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et je suis fier d'avoir fait ce partenariat avec l'AD, avec le FRAC, et puis avec l'université.
Alors, à nos côtés, justement, la nouvelle directrice du Fonds régional d'art contemporain, Muriel Enjadran. Comment vous est venue cette idée? Comment vous l'avez réalisée, surtout?
Vous savez, la vocation du FRAC, c'est d'aller avec ses œuvres auprès de partenaires extrêmement divers et variés. C'est vraiment sous l'impulsion du département et avec son soutien que ce projet est né avec effectivement l'agence, le Sentier des Saveurs et Senteurs et l'université. Et comment il a été monté? Eh ben, ça a été un projet qui a pris du temps et dans une temporalité contrainte, évidemment par le Covid, mais quand même sur les 15 entreprises ce sont finalement 8 qui se sont associées, qui ont décidé effectivement d'accueillir une œuvre en leur sein, ce qui est déjà extraordinaire. Et donc le choix s'est fait dans des allers-retours avec l'esprit de la boutique, les produits, les savoir-faire qui étaient mis en avant pour essayer d'apporter la réponse à travers une œuvre, enfin de donner une œuvre la plus adaptée possible à l'esprit effectivement de la boutique et aux valeurs que souhaitent partager ces entreprises et industries.
On peut dire qu'il y a un voisinage, voire un cousinage entre les artistes et les entreprises qui les accueillent.
Oui, tout à fait. Je pense que d'abord, les artistes se retrouvent avec les artisans et les entreprises autour de savoir-faire, de gestes, mais aussi ils partagent des valeurs, l'innovation, l'engagement, mais aussi l'innovation. Et en cela, ils ont beaucoup à partager et à partager en termes aussi d'expérience. Si les produits proposés ici sont pourvoyeurs d'émotions, les œuvres le sont aussi. Et donc c'est à cet endroit-là qu'une alchimie peut effectivement naître entre des personnes qui souhaitent découvrir ces produits, qui tout d'un coup découvrent l'œuvre, ou au contraire des publics habituels culturels de l'art contemporain qui vont se dire l'occasion de découvrir ce terroir magnifique en faisant un parcours, en cherchant les œuvres à travers les différentes boutiques d'entreprises participantes.
Alors il y a de la peinture, il y a de la photo, il y a des collages, et puis il y a même de la vidéo, et c'est une vidéo qui m'a marqué, c'est Imane Fakir, une artiste marocaine, qui a filmé les mains de sa grand-mère en train de faire de la cuisine, évidemment avec de la farine, avec du sucre, avec de la semoule, et c'est aussi une part de la tradition qui vient nous rencontrer.
Oui, donc c'est Perle Amande, hein, qui accueille un ensemble de 3 films où donc cette artiste marocaine a filmé les gestes de sa grand-mère qui pétrit du sucre, de la farine, et donc on a vraiment cette tension très forte sur les gestes, mais avec beaucoup de, je dirais, d'émotions qui renvoient aussi à une sorte de culture autour de la nourriture, des produits. Et je pense qu'en ça, c'était une réponse aussi très juste à apporter à ce partenariat pour Perle Amande.
C'est une exposition qui va durer jusqu'au 31 octobre. Oui. Et peut-être qu'elle pourra être agrémentée d'autres éléments qui vont arriver en superposition et en plus.
Alors, le parcours va exister avec les œuvres telles qu'elles sont présentées actuellement, mais l'idée, c'est effectivement que de ce premier partenariat puissent naître d'autres envies, d'autres désirs avec tous les partenaires pour essayer d'aller plus loin aussi sur cette rencontre avec l'art contemporain et avec des entreprises qui ont envie de renouveler l'expérience, peut-être de proposer aussi d'autres formats avec des artistes qui viendraient dans les entreprises. Enfin, on espère, on va travailler à ça pour l'année prochaine.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. À bientôt.
Merci Olivier. À la semaine prochaine.